Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine Dialogue des religions en rediffusion sur la canonisation de deux papes. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Au Mali, le ministre de la Défense Souleymou Boubey Maïga a été remplacé par Bandao, un militaire à la retraite. Ce changement dans le cabinet de Moussa Mara intervient à la suite de la défaite de l'armée malienne à Kidal face aux troupes armées dont le MNLA. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Avant sa démission, Souleymou Boubey Maïga a eu un entretien avec le président de la République du Mali. Selon certaines sources, les chefs de l'État et son ministre de la Défense ne se sont pas compris. Souleymou a préféré quitter le gouvernement. Le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants s'appelle Bandao. Il a 60 ans, ancien colonel-major. Il s'occupait de sa ferme après sa retraite de la vie militaire il y a 3 ans. Bandao est de la promotion 73 de l'école militaire interarmes du Mali. Il a été chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur de l'équipement des armées. L'ancien aide de camp de Moussa Traoré a aussi été commandant de base, entre autres. Homme de décision, il aide et conseille qu'il ne faut pas laisser trop de dossiers sur la table avant de rentrer à la maison. Le grand homme, comme l'appellent ses intimes, a pris fonction officiellement ce mercredi 28 mai 2014. Au titre de ses décorations, il est médaillé de mérite militaire, chevalier de l'ordre national. Bandao est marié, père de 2 enfants. Il parle bamana, français, russe et anglais. Bamako, Kassim Traoré, la voix de l'Amérique.
À Bangui, après une accalmie relative des tirs, l'âme lourde et légère ont de nouveau secoué hier et aujourd'hui les 3e, 5e et 6e arrondissements de la capitale. Le point, Idriss Fall.
Le calme était revenu hier après-midi, mais les tirs ont repris au milieu de la nuit et se sont poursuivis encore aujourd'hui. Il s'agit d'affrontements entre anti-Balaka et des musulmans armés du PK5. Ces combats ont éclaté suite à l'assassinat dimanche de 3 jeunes musulmans par des hommes assimilés aux anti-Balaka. Selon l'abbé Jonas de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement, les tirs ont semé la panique sur le site des déplacés de son église. Cyril Benham, habitant du 3e arrondissement, déplore ce regain de violence.
On a vécu un moment très dur parce qu'il y a eu des tirs sans cesse et ça a traumatisé la population et les gens ont quitté le quartier pour aller se réfugier dans les ledgers. Nous, on est fatigués. On en parle tous les jours, la radio, partout. Rien ne change. Même la Miska qui est là, les Sangaris, rien ne change.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise, a de nouveau réitéré son appel au dialogue entre tous les Centrafricains pour sortir du cycle de violence.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Aux États-Unis, le président Obama propose un fonds de 5 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme. Dans son allocution devant la promotion sortante de la prestigieuse académie militaire de West Point, le président américain Barack Obama a fait savoir que l'isolationnisme n'est pas une option pour les États-Unis, mais que tous les problèmes ne nécessitent pas une solution militaire. Et c'est la ligne directrice que le chef de l'exécutif américain souhaite donner à sa politique étrangère pour ses dernières années au pouvoir. Le président russe Vladimir Poutine se rendra à Paris la semaine prochaine pour discuter de la situation en Ukraine avec son homologue français François Hollande. Ce sera la première rencontre officielle entre Poutine et un dirigeant occidental depuis le début de la crise. Le président Barack Obama, le premier ministre britannique David Cameron et la chancelière allemande Angela Merkel seront en France au même moment. Mais un assistant de M. Poutine a dit qu'aucune rencontre n'est formellement prévue avec ces 3 leaders. Et aucun combattant de Tchétchénie n'a été envoyé dans l'est de l'Ukraine pour soutenir les séparatistes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le dirigeant de cette région russe.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Sedoudia. Le thème de cette édition, canonisation le 27 avril des papes Jean XXIII et Jean-Paul II lors d'une cérémonie sur la place Saint-Pierre au Vatican. Pour le correspondant de la Voix de l'Amérique chargé des questions religieuses, Jérôme Savolowski, cette double canonisation s'inscrit dans le cadre des efforts du pape François en vue de réconcilier les libéraux et les conservateurs de l'Église catholique. Nos invités ce soir, le père abbé André Kenom, directeur de publication au Bénin, Dominique Konkou, avocat en droit international public, sociologue et spécialiste en dialogue interreligieux. Ils répondront à vos questions et commentaires sur Facebook ou en direct dans un instant. Pour commencer, Timothée Donangmaï campe le sujet.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Les admirateurs de Jean-Paul II n'ont cessé de réclamer à corps et à cri sa canonisation depuis sa mort en 2005. Ce n'est que 6 ans plus tard qu'on a trouvé le second miracle requis, à savoir la guérison d'une femme du Costa Rica. Les responsables de la canonisation ont donc demandé au pape François à quelle date il voulait tenir la cérémonie concernant Jean-Paul II. Sa réponse, selon un observateur du Vatican, le prêtre jésuite Thomas Rees,
and Pope Francis's response was, well, what about John the 23rd?
La réponse du pape François a été, eh bien, qu'en est-il de Jean 23? Et ils ont dit, eh bien, il n'a eu qu'un seul miracle et il lui en faut 2 pour devenir un saint, pour être canonisé. Et sa réponse a été, et selon qui? Il est le pape, a rappelé avec humour le père Rees. Il est évident que Jean-Paul II était mieux connu que Jean 23. Le défunt pape polonais s'était rendu dans pratiquement tous les coins du monde, même les plus reculés, et on pense qu'il a aidé à accélérer la chute du communisme. Jean 23, lui, n'était devenu pape en 1958 qu'à cause de l'incapacité, selon le père Rees, des cardinaux à faire un choix.
He was an old man. They elected him.
C'était un vieil homme et il l'avait élu pour, en quelque sorte, chauffer la place. Mais il a convoqué le Concile Vatican II pour moderniser une institution apparemment anachronique. Plus de 2000 représentants de pratiquement tous les pays du monde s'étaient alors réunis pour se pencher sur la position de l'Église dans l'ère de l'exploration spatiale. C'était une décision extraordinaire, rappelle le père Rees, parce que l'Église n'avait pas eu depuis très très longtemps un concile œcuménique. C'est à ce concile qu'il a été décidé de lever l'obligation de dire la messe en latin et d'ouvrir le dialogue avec les autres religions. Pour certains traditionalistes, Jean XXIII et le concile sont allés trop loin, tandis que certains libéraux ou progressistes estiment que le règne de Jean-Paul II était caractérisé par le dogmatisme et marqué par la dissimulation des abus sexuels au sein du clergé catholique. Donc, pour le père Rees, le pape François tente ainsi de réconcilier ces deux tendances. Il s'agit là d'une manière symbolique pour lui de dire que nous appartenons tous à la même famille, unis par Jésus-Christ, et que nous pouvons tous nous retrouver pour célébrer les apports de ces deux hommes. Jean-Paul II et Jean 23 sont, l'un et l'autre, des exemples du clergé d'aujourd'hui, souligne le père Richard de Lillion, professeur à l'Université catholique de Washington. Je pense qu'ils avaient ce que chaque prêtre devrait avoir, le dynamisme. Et la seconde chose est qu'ils prêchaient ce en quoi ils croyaient et dont ils témoignaient. En somme, disent des admirateurs du pape François, le portrait même du chef actuel de l'Église catholique.
Merci Timothée Donangmaï. Maintenant avec nos invités.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Nous avons en tout cas en ligne pour le moment M. Dominique Konkou, qui est avocat en droit international public et sociologue et spécialiste en dialogue interreligieux. Bonjour M. Konkou. Bonsoir.
Bonjour à vous.
Comment allez-vous?
Moi, ça va bien. Et vous?
Bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous avez entendu Timothée. Qu'avez-vous ajouté à cette présentation?
Oui, je pense qu'elle est bien faite. Et c'est vrai que la personnalité emblématique qu'est le pape François et se projette beaucoup à travers cette manière de rapprocher ce qui pourrait être deux tendances de l'Église, mais en fait, qui n'est que l'Église en tant que telle. Je suis d'accord avec sa conclusion, enfin, la conclusion des auteurs qu'il a cités, qui permet de dire qu'au fond, François veut nous montrer qu'au fond, l'Église, c'est cela, que ce n'est pas seulement une tendance ou une autre. Ce n'est pas un réformisme contre un dogmatisme, mais c'est les deux à la fois. Et c'est ça qui fait l'équilibre, sans doute, du christianisme.
Pour le moment, c'est ce qu'il tente de faire, mais est-ce qu'il est possible vraiment de concilier ces deux tendances ?
Je crois que c'est bien possible, parce que déjà, ce qu'on oublie, c'est qu'au fond, quand on parle de l'Église, au moins quand on voit le sens grec et ecclésia, c'est un terme qui va avec l'expression ekkaleo, c'est-à-dire que nous sommes tirés. On est appelé, il y a une sorte d'ordonnance, on est appelé dans du monde, donc avec des cultures différentes, avec des visions différentes, mais même, et les mêmes divergences, je crois, se retraduisent dans l'Église en tant que telle. L'Église a traversé beaucoup de moments, des moments forts. C'est vrai, parfois ça s'est traduit comme la réforme, comme l'orthodoxie, mais il reste tout de même qu'il y a une identité commune. Alors, est-ce que Pape François arrivera, comme on dit, qui ne tente rien, n'arrive nulle part, hein. Et je crois qu'il en a le charisme. Il a une volonté de donner à l'Église autre chose, un autre visage. Peut-être un visage que le monde attend, parce que le monde a beaucoup désespéré l'Église, je crois.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Ok, alors, nous avons maintenant en ligne l'abbé André Kenom, qui est directeur de publication au Bénin. Mon père, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre publication pour commencer?
Oui, pardon, le journal La Croix du Bénin, c'est un hebdomadaire catholique au Bénin, national.
La Croix du Bénin. Alors, donc, vous pensez, vous avez suivi déjà le début de cette émission, à savoir cette tentative de concilier les deux tendances conservatrices et progressistes de l'Église catholique en choisissant de canoniser à la fois Jean XXIII et Jean-Paul II. Pensez-vous que c'est possible?
Oui, je ne pense pas que ce soit une question de réconciliation. C'est comme un balancier, vous voyez, en voyant le pontificat de Jean XXIII qui a voulu ouvrir la porte de l'Église à un nouveau souffle, le pontificat de Paul VI, qui visiblement a voulu gérer cette vertu, grande vertu que Jean XXIII a commencé. Et Jean-Paul II lui-même déjà a pris le nom de Paul et de Jean pour montrer que dans son pontificat, il veut unir un peu les deux tendances. Et donc, c'est plus complexe que traditionnaliste, que plus progressiste, c'est plus complexe. Je pense que c'est des richesses et des courants qui enrichissent l'Église. Ce qu'on peut retenir, c'est comme disait votre interprète tout à l'heure, qu'après, dans la succession, on a prochain une image très forte. Deux anciens papes qui sont canonisés et peut-être deux papes, l'un mérite l'autre actuel, qui sont de caractère, de personnalité très différents et qui vont peut-être, si le pape émérite Benoît XVI était présent, comme on entend dire, ces deux images fortes qui montrent que, je pense que dans la richesse de leur charisme, de leur manière de contribuer à gouverner l'Église, chacun d'eux apporte quelque chose et ça répond à des échos, des attentes de Dieu, du monde d'aujourd'hui. Mais réconcilier, je ne pense pas que ce soit possible.
Alors, je pensais tout à l'heure, effectivement, quand le pape polonais a choisi ce nom de Jean-Paul II, il avait parlé effectivement de son admiration pour Jean XXIII et Paul VI, je crois, en ce moment-là, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et ce faisant, quand même, on se rappelle, son premier mot, c'était « n'ayez pas peur ». Donc le courage d'avancer au large, de s'ouvrir à un nouveau souffle, il l'avait aussi. Mais il avait à l'œil le fait que ne faudrait pas que ce soit deux courants qui divisent et qu'il n'y ait pas de tiraillement. Vous savez, depuis l'origine, même autour de Jésus-Christ, les apôtres avaient des tendances, chacun d'eux avait son charisme, avait sa personnalité, et c'est une richesse de contribution. Et je crois que c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Monsieur Dominique Konkou, vous êtes spécialiste en dialogue interreligieux. C'était à l'occasion de ce consul Vatican II qu'on a décidé d'avoir le dialogue avec les autres fois. Comment est-ce que vous pouvez tirer un bilan à ce niveau?
Je crois que le concile Vatican II a réformé d'une certaine manière de l'intérieur l'Église catholique.
Et, oui, allez-y.
Dès l'instant que déjà à l'intérieur du corps même, l'Église catholique, on a reconnu que chaque membre, que c'était un peuple de Dieu, le peuple des baptisés. Ça, c'est un élément important. Ça signifie déjà, on a fait entrer l'individualisation. C'est pas l'individu, c'est pas l'individualité, mais une sorte de reconnaissance, de conscience de chacun, et que chacun pouvait s'exprimer d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis la deuxième chose qui a été apportée, c'est l'œcuménisme. Et je crois que c'est le plus beau souffle qui a été donné. Et d'ailleurs, le Conseil œcuménique en est né. Beaucoup de mouvements qui sont maintenant encore reconnus à travers le monde comme Thésée se sont inscrits dans cette logique-là. Et je pense que l'Église, plus que jamais, surtout quand on voit l'évolution des grandes religions comme l'islam, l'Église, plus que jamais, devrait arriver à tirer des leçons de cette volonté de Vatican II, de rendre écuménique les enfants de Dieu qui sont dispersés. Comme dit d'ailleurs le Christ lui-même, je crois que c'est dans Jean 17, quand il dit qu'il soit un comme nous sommes un. C'est plus qu'un défi, c'est pratiquement un ordre, une ordonnance en fait. Et je crois que Vatican II a ouvert au moins le champ du dialogue. Bon, est-ce que ça peut aller plus loin? Pourquoi pas? Je pense que, en tant que chrétien, et je crois qu'aussi en tant que sociologue, on arrive à constater qu'il y a une grande espérance qui est fondée sur la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu et qui fait l'imprévision. Ce qui fait que on voit un pape qui arrive, qui n'était peut-être pas celui qui était attendu. On voit d'autres situations qui s'installent, qui nécessitent que les chrétiens deviennent de plus en plus unis et présents dans le monde. On voit la nécessité d'apporter l'évangélisation, la nouvelle évangélisation dont a parlé Benoît XVI. Je crois qu'il y a une continuité qui est là. Et personnellement, en termes de dialogue des religions, il n'y a pas un moment plus fort dans le christianisme contemporain que cette période en fait de Vatican II.
Merci monsieur Dominique Konkou.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Maintenant l'abbé André Kenom, mon père, vous avez entendu parler de l'œcuménisme. Je pense qu'il serait bon d'expliquer à ceux qui ne sont pas catholiques, chrétiens, etc., ce que signifie l'œcuménisme et aussi cette exigence qu'on a d'avoir un miracle pour pouvoir être canonisé. Pouvez-vous expliquer tout ça au nom chrétien?
D'accord. L'œcuménisme, c'est le terme qui est utilisé pour parler du dialogue entre il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens protestants, des chrétiennes d'autres obédiences qui ne sont pas catholiques. Et le dialogue entre eux s'appelle l'œcuménisme. Et on le distingue du dialogue des religieux, qui est le dialogue entre l'Église catholique et les autres religions non chrétiennes. C'est juste une distinction pour organiser qui est une exigence évangélique, parce que Jésus nous a dit que si on n'est pas un, on ne peut pas annoncer l'Évangile. Maintenant, l'exigence parmi les critères pour avoir le saint, il y a en dehors de l'héroïsme de la vie, d'une certaine qualité de la vie de la personne, pour la personne c'est vrai, l'Évangile dit que nous sommes tous à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il n'y a que Dieu seul qui soit saint. Mais chaque homme peut tendre à cette sainteté. Et donc, quand on choisit des gens pour qu'on pense, qu'on croit qu'ils sont en train de contempler la face de Dieu, il faut qu'ils aient une vie. On appelle certaines
Mon père, on a des problèmes avec, malheureusement, le téléphone. Mais il y a un auditeur qui aimerait poser une question. On va laisser Christophe poser la question à M. Dominique Concou pendant que Joselle essaie encore de vous joindre par téléphone, mon père. Alors donc, Christophe, posez votre question et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, allez-y.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Oui, merci VOA pour cette émission. Et je pense que c'est ma première fois de participer. J'ai été très ravi de voir le sujet, vu le travail, le grand travail abattu par le principe père Jean-Paul B, surtout son intervention dans les entretiens ou les négociations à faveur avec la paix dans notre monde. J'ai été très ravi et aussi la façon de pouvoir gérer l'Église catholique durant ce temps. Vraiment, cela nous a permis de pouvoir accepter et applaudir. Et enfin, remercier aussi le très saint père, le pape Benoît, le pape François, de pouvoir initier cette procédure de canonisation. En fait, j'aimerais savoir aussi si pour l'Église, qui sont les libéraux et qui sont les conservateurs. Merci.
Ok, merci. Alors, Dominique Concou.
C'est la grande question. C'est vrai qu'il y a une notion dont je parlais tout à l'heure qui a été mise en valeur et en exergue par Vatican II, la notion de conscience, conscience individuelle. Et de là sont nés, disons, tout un ensemble de, non pas de revendications, mais des regards assez divergents, assez différents dans l'Église, jusqu'à devenir pratiquement des courants. Et je pense que ce que l'on peut appeler les réformateurs, beaucoup disent réformistes, ainsi de suite, mais je crois que ce sont des chrétiens qui se réclament du catholicisme d'abord, mais qui défendent des idées ouvertes en matière de mœurs et de doctrine. Ils peuvent même aller jusqu'à contredire les positions du magistère pontifical de l'Église catholique romaine. Ils peuvent également faire avancer des idées, comme par exemple l'ordination des hommes mariés ou le mariage des fidèles catholiques, ou la consécration également. Il y a un problème aussi qui se pose beaucoup dans l'Église, avec beaucoup de divorces à travers le monde. Et ils veulent que l'on puisse parler de ce sujet. Il y a aussi le grand problème de l'ordination des femmes. Et je crois que tous ces problèmes sont portés par un courant qui n'est pas forcément le courant, je dirais, de l'orthodoxie catholique. Et au niveau de ce qu'on peut appeler les conservateurs, c'est ceux qui estiment que, par exemple, déjà en France, il y a eu Lefebvre qui a considéré que Vatican II est allé trop loin, qu'il fallait garder, par exemple, la messe en latin. Il y a d'autres personnes, Jean-Paul II, au moment où il a pris position contre les contraceptifs, contre tous ces moyens, en ordonnant qu'il était nécessaire que les chrétiens deviennent fidèles, et a été vite classé parmi les conservateurs. Donc, disons, les conservateurs, c'est ceux qui gardent une certaine orthodoxie, une ligne d'orthodoxie, qui pensent que c'est ça qui est vraiment l'Église. L'Église, le témoignage de l'Église, qui doit être non pas uniforme depuis les débuts, mais même s'il dialogue avec le monde, qui doit garder son entité, son intégrité, sa réalité. C'est tellement que maintenant, par exemple, en France, on parle du mariage pour tous, et il est vrai qu'il y aurait des catholiques pour qui cette notion, c'est plus qu'une notion, maintenant cette loi serait pratiquement une loi barbare par rapport à la réalité elle-même du message chrétien. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pas une définition certainement académique, mais disons c'est en termes de mouvement de l'Église. Dans l'Église catholique, il y a ceux qui veulent une réforme, parfois même radical. Mais ils ne sont pas encore organisés en mouvement, mais c'est tellement que ça va évoluer. Et je crois que c'est le mouvement interne qui font avancer ceux qui sont des,
très
bien. Appeler voilà, les autres, quoi, qui gardent une rigueur.
Très bien, merci aussi. Dominique, on me signale que le père André Kenom est de nouveau en ligne. Mais avant de lui céder la parole, j'aimerais lire quelques commentaires ici ou quelques questions. Peut-être que vous tous, vous pouvez répondre.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Il y a João Manuel Salvador qui dit « de belles initiatives qui ne résoudront rien ». Bref, du baratin, dit-il, cette double canonisation s'inscrit dans le cadre des efforts du pape François en vue de réconcilier les libéraux et les conservateurs de l'Église catholique. Qu'en pensez-vous ? Il répond avec un grand rire. Et il y a, comment dirais-je, quelque chose a retenu mon attention, écrit Christian Unconto. Réconcilier les libéraux et les conservateurs, de quoi s'agit-il? Joshua Lagardy, qu'est-ce qui est à l'origine de la canonisation de ces deux papes? Et puis Joël Unjo de Ouida au Bénin, la vraie Église de Dieu pourrait-elle être divisée de cette manière? Que les sourds commencent à entendre et que les aveugles commencent à voir. Toujours le même Joël Unjo, des questions pertinentes à poser. Alors, archiduc Théodore de N'Djamena, y a-t-il des avantages accessoires pour cette canonisation? Brian Kouadjo, je crois que c'est une insulte à l'égard de Dieu, seul Dieu est saint. En gros, quelques-uns des commentaires que nous avons pu, il y en a bien d'autres, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, est-ce une insulte à Dieu? Peut-on qualifier un homme, un simple homme, de saint? Mon père.
Non, je ne crois pas que ce soit une insulte à Dieu. L'Évangile dit bien que les hommes sont appelés parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Dieu seul est saint, ça c'est clair. Mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Et nous croyons que l'Église, c'est aussi l'Église dans la communion des saints, que nous, la vie ici-bas n'est qu'une partie de la vie et que dans l'au-delà, nous participons à la sainteté de Dieu. Donc, tout ce dont il s'agit, c'est des gens qui sont des exemples pour nous, pour montrer comment nous pouvons tendre vers la sainteté. Donc, aucunement une insulte à l'Église, pas à la sainteté de Dieu. Je voulais ajouter aussi, pour ceux qui demandent, quand on entend parler des conservateurs et des progressistes, ceux qui, ce n'est pas une Église divisée, c'est des courants qu'il y a dans l'Église. Mais il y a le fond même, la grande majorité de l'Église ne suit pas ces deux mouvements-là. C'est des expressions extrêmes de différents courants qui sont dans l'Église. Mais quand on entend que chaque courant choisit un pape comme un porte-flambeau, il s'agit donc de montrer que même au cœur même de l'Église, les papes eux-mêmes contribuent sur leur charisme vont conduire l'Église dans une direction ou dans une autre, mais je crois que ça s'ajoute en fait. Et voilà un peu rapidement quelques commentaires que je peux porter. Ensuite, quelqu'un dit que c'est un simple baratin, que cela ne changera rien. Mais si, le monde évolue et l'Église contribue à l'évolution du monde, et l'Église est en dialogue, parfois un signe de contradiction avec le monde. Donc, sur toutes ces questions-là aussi, il y a comme un désir, comme si on donne l'impression que c'est le mouvement dans lequel va le monde que l'Église doit aller. Je pense que c'est une erreur. Bon, ensuite, par rapport, je réponds très vite là, hein, par rapport à ceux qui disent qu'ils sont je ne sais pas quoi, journalistes, je crois que l'essentiel à retenir, c'est la manière dont l'Église aujourd'hui vit selon l'Évangile. Et par rapport à ça, il y a bien un grand nombre de chrétiens qui ne se distinguent pas, qui ne s'opposent pas en termes de traditionnalistes et de progressistes.
Merci beaucoup, mon père. Malheureusement, il ne nous reste plus que 45 secondes et toutes mes excuses à l'auditeur et aux auditeurs qui sont encore en ligne et qui espéraient intervenir dans cette émission. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, tous nos remerciements au père Abbé André Kenom, directeur de publication au Bénin, Dominique Konkou, avocat en droit international public, sociologue et spécialiste en dialogue interreligieux. Mes remerciements à tous les auditeurs et auditrices qui ont voulu participer à cette émission ou qui ont fait des commentaires sur Facebook et à Joselle Morissin, de l'autre côté de la vitre. C'était au micro Idrissa Sedoudia, Washington, la voix de l'Amérique.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.